Jazz.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase, et les midi 1 exactement. Énormément d'actualité pour vous en cette belle émission. Ça brasse pas à peu près, autant Québec, mais surtout sur la scène judiciaire. On va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Après vous avoir rappelé que le 418-971-1021 est le numéro pour nous texter. Merci beaucoup, on adore vous lire, on adore interagir avec vous. Par la suite, le 418-780-1021, c'est le numéro pour nous appeler. BLVD.fm, c'est notre web radio. Vous allez retrouver les meilleurs moments également après l'émission sur notre site web. Si jamais vous avez manqué un bout d'émission que vous voulez réentendre, ou même un bout d'émission que vous voulez réentendre dans les autres émissions. Notamment le pit stop aujourd'hui avec Denis Gravel ce matin. On s'est astiné sur les gens qui votent, moi, Marceau et Denis. Moi et Denis, on est en désaccord avec Yannick Marceau. Qui disait, ben, ça prendrait un test de QI pour aller voter, puis il faudrait que tout le monde connaisse tous les plans de partis politiques. Non, non, non. T'as le droit d'aller voter si t'es juste insécure à cause de Donald Trump. C'était le point de Denis Gravel et Jeff Fortin. App Store, Google Play Store, c'est gratuit. L'application BLVD 102.1, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Ça vous permet d'aller voir nos meilleurs moments, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini de midi à 12h30, du lundi au jeudi. Vous rappelez aussi qu'avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » et paf, on apparaît dans vos oreilles. Pascal Sylvain, Antonine Iaccarini, ça va bien?
Allô? Très bien.
Cool! Pascal, on commence avec la grosse nouvelle, c'est-à-dire le jugement concernant la poursuite au civil contre Gilbert Rozon.
880 000 $, voilà ce que Gilbert Rozon a été condamné à payer dans le procès civil qui l'opposait à 9 femmes. C'est moins que ce qu'on réclamait initialement. C'était 14 millions de $ que les 9 femmes voulaient, en fait, de l'ex-magnat de l'humour. Elles le poursuivaient pour cette somme-là. Il faut savoir que la juge a tranché. Donc, la juge Chantal Tremblay a cru beaucoup plus la version de 8 des 9 femmes que celle de Gilbert Rozon. C'est ce qui met fin à une saga judiciaire qui a duré presque 10 ans. Mm-hmm. Donc, on a cru davantage Annick Charrette, Guylaine Courcelle, Lynn Charlebois, Anne-Marie Charrette, Sophie Moreau, Martine Roy, Patricia Tulane et Dany Frenette. C'était ces femmes qui poursuivaient Gilbert Rozon. La poursuite de Marilyn Sicari a été rejetée, par exemple. On parle de beaucoup de choses là-dedans, entre autres que M. Rozon posait des gestes conséquemment. Il utilise différents prétextes pour se retrouver seul avec des demanderesses avant de les agresser. Il fait également fi de refus clairement verbalisé par ces femmes-là. On dit que c'est une grave erreur dans la vie de Gilbert Rozon, selon ses propos, là, il dit qu'il va montrer qu'il n'est pas coupable, qu'un chèque aurait tout réglé. Dernière apparition en cours en septembre dernier, c'était ses propos. Par contre, aujourd'hui, il n'a émis aucun commentaire.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. Pascal vient de nous résumer le jugement de Gilbert Rozon. Anto, c'est une bonne chose pour les victimes d'agressions sexuelles que ce jugement-là tombe, et tombe quand même positivement.
Ouais, je sais pas, vous, votre première réaction, mais je me suis un peu dit en voyant le jugement, ouf.
T'sais, ah, vraiment, j'ai eu le même souper, j'ai fait ouf. Les femmes victimes d'abus sexuels, d'agressions sexuelles vont continuer à dénoncer. Je trouvais qu'avec l'histoire des joueurs de hockey de Team Canada, et 5 oui. C'est une femme dans une chambre d'hôtel, je trouvais que, puis de la façon que la juge avait agi avec la victime aussi, oui. Je trouvais que les victimes en avaient pris un petit peu trop pour leur rhume, pour prendre cette expression-là.
Ouais, puis tu sais, les déboires judiciaires de Gilbert Rozon, c'est devenu un symbole là, au Québec. Là. C'est notre mascotte du Me Too, là.
Oui,
Québec,
vraiment. Là.
C'est comme notre Harvey Weinstein à nous, ça, Gilbert Rozon. Donc,
très bon
c'était
point.
Devenu vraiment très, très symbolique. Ces procès-là, parce qu'il y a eu aussi du côté criminel, maintenant on est du côté civil, puis comme vous savez, c'est différent. Hein. Pour prouver son point au civil, c'est pas au-dessus de tout doute raisonnable, donc c'est différent. Ça peut envoyer un message aussi aux victimes que c'est une des voies par lesquelles on peut passer pour obtenir justice, qui est peut-être
plus efficace pour les cas d'agression sexuelle qui sont tellement difficiles pour les victimes. Et ces procès-là aussi, ce que ça a amené, c'est une discussion de société autour, évidemment, du consentement. C'est dans le contexte de MeToo, bien sûr, mais aussi sur tous les obstacles que les victimes ont sur leur chemin pour dénoncer, pour aller dans un processus judiciaire. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a une décision qui n'est pas du côté des victimes, puis évidemment, on s'entend, des fois, c'est possible aussi que les gens ne soient pas coupables. Il faut le prendre en considération.
Oui, exactement.
Le problème avec M. Rozon, c'est que, disons que ce serait un très, très grand complot qu'il n'y ait rien du tout. Quoique ses amis étaient venus pendant le procès, vous vous souvenez, pour dire que c'était une grande victime, dans le fond, M. Rozon. De MeToo.
Sa sœur aussi, de mémoire. Ouais.
Sa sœur. Pierre-Marc Johnson, qui était venu dire que c'était bien épouvantable. Ancien premier ministre. Il y avait Guy Fournier aussi, figure connue du monde culturel, qui était venu dire. C'est parce qu'on ne peut plus rien dire. Hein? Moi,
je trouve que... Je peux faire mes jokes de mon oncle, c'est-tu plate,
ça? Je peux plus faire des commentaires sur les seins de la maquilleuse pendant qu'elle me maquille.
Ben, c'est-tu plate, ça, c'était le fun. Il dirait, t'as une belle craque.
Ça a amené une discussion aussi sur ces hommes en position de pouvoir qui... comment doivent-ils se comporter?
C'est justement là que je voulais aller. Je suis content que tu l'abordes. En passant, 12h30, Alexandra Fadel, avocate senior chez Juripop, spécialisée dans les recours civils en matière de violence sexuelle, va être avec nous justement pour nous parler de ce jugement-là. Moi, il y a là que je trouve qu'il y a une avancée énorme au Québec. C'est avec les hommes en autorité sur des femmes. Le fait qu'on l'a entendu, ça s'est déjà passé, que les femmes ont été obligées justement de faire des gestes à caractère sexuel pour avancer dans des compagnies ou avoir une carrière dans le domaine artistique. Là, j'ai l'impression qu'on vient de mettre la hache dans ce fameux ce fameux régime-là. Exactement.
Ben oui. Puis, tu sais, faut le dire aussi, là, c'est pas le seul procès, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le domaine du consentement, de ce qui est acceptable ou non. On a beaucoup parlé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel dans les dernières années. Mais on sent aussi un espèce de retour du pendule. MeToo est allé trop loin. Ça, on l'entend beaucoup.
Ouais.
Et je trouve que le procès de M. Rozon, là, avec ces bonhommes qui sont venus dire qu'on ne pouvait plus rien dire, puis que c'était bien épouvantable, MeToo, puis que les hommes en étaient victimes maintenant, là, je trouve que ça c'est venu dire « Non, regarde, désolé, là, mais vous n'êtes pas des victimes. » Donc ça, il y a quelque chose de très positif là-dedans.
Non, mais en effet, puis je suis très d'accord avec toi, parce que, vois-tu, moi, je suis un homme, puis il n'y aura jamais un mouvement MeToo qui va m'emporter, parce que je n'ai jamais eu ce type de comportement-là.
Tu ne te sens pas, tu te sens pas limité dans tes actions par le mouvement MeToo?
Pas du tout.
Parce qu'il n'y a pas d'actions que tu posais.
Ben, exactement.
Qui sont répréhensibles.
Donc, ceux qui se sentent limités, c'est parce que c'est ceux qui ont de quoi dans le placard, là, qui disent « Ouais, il ne faudrait pas que ça sorte. Hein, la fois que j'ai touché les parties génitales d'une femme sans son consentement. »
Ben, c'est ça.
Mais là, tu es « Ah, c'est vrai. Hey, j'étais chaud, j'étais dans un party. » Ben, non.
Ou tu sais, des choses pas criminelles. Moi, j'aime ça faire des compliments. Moi, j'aime faire des compliments aux femmes, au bureau. OK, peut-être que effectivement, tu te retrouveras pas en prison pour ça, mais je pense que c'est correct qu'on ait une discussion de société autour du fait que je pense qu'on peut très bien passer nos journées, Roger, sans que tu fasses de commentaires sur le physique des dames avec qui tu travailles.
Merci. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, 100%.
Je reviens un peu plus sur le procès comme tel, puis sur le fait que ces femmes-là qui dénoncent doivent revivre cet événement-là quand elles font leur processus de dénonciation avec les policiers. Après
c'est ce
ça,
qui est atroce.
Et ça, c'est extrêmement difficile. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a un tribunal spécialisé qui a été mis en place par le gouvernement Legault, par la ministre Sonia Lebel, et ensuite là, qui a été continué par Simon-Jolin Barrette, les deux ministres de la Justice du gouvernement Legault. Un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... des processus qui sont extrêmement difficiles pour les victimes. Et donc, d'avoir du personnel judiciaire qui est formé, qui sait, qui a un petit peu plus de sensibilité, de connaissance sur comment ça fonctionne, le processus d'une victime. Parce que, tu sais, des fois, on va leur reprocher, mais pourquoi vous n'avez rien dit à l'époque? Pourquoi vous avez dit ça, mais finalement, c'était pas vrai? Pourquoi? Bien, quand tu as une connaissance du processus d'une personne à qui ça arrive... Et les étapes par lesquelles cette personne-là doit passer, bien, c'est sûr que ta vision change. Dans les dernières années, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont pris la parole pour en parler. Je pense évidemment à Catherine Fournier. Je pense à l'organisme oui. Jury Pop avec qui vous allez parler tantôt. Eux, ils ont une connaissance très fine aussi de comment les victimes passent à travers ces étapes-là. En tout cas, je vois ça comme vraiment un avancement et j'espère que le pendule ne va pas revenir trop fort là, à la suite de MeToo.
Juste le fait de devoir rester calme dans une cour qui demande à avoir le moins d'émotions possible face à une situation qui est hautement émotionnelle, oui. qui peut être injuste. Moi, je lève mon chapeau pour les victimes hein, qui continuent leur chemin là-dedans. Je pense que quand tu te fais refuser, par exemple, à un moment ou à un autre, où tu ne te fais pas entendre, tu ne te fais pas croire quand c'est réel, ça doit tellement aller te chambouler, mais rester forte, la tête haute, puis continuer de plaider ta cause, ah, si ouais. on veut, avec pas trop d'émotions.
Puis les maudits contre-interrogatoires
oui.
de marde.
Mais oui,
puis
la couverture
on médiatique essaye aussi. De faire en sorte que la victime se mette ça sur le dos,
ouais.
ça me pue au nez.
Puis tu sais, on s'entend qu'il y a des cas où c'est vrai que c'est l'homme qui
bien
est victime,
sûr.
Oui.
Oui.
puis le contre-interrogatoire se vaut. Mais il y a des contre-interrogatoires qui sont à la limite,
ouais.
à la très grande limite de ce qui devrait être acceptable en cours, mm. Parfois face à n'importe quelle victime.
Et surtout pour des agressions multiples, comme là, c'est venu au fait que les joueurs de hockey n'ont pas été connus coupables. Mais je vais donner quand même ça comme exemple. Sont cinq, sont représentés par cinq avocats. Fait que la présumée victime, dans ce cas-là, parce que je peux pas l'appeler victime parce qu'il n'y a pas eu de culpabilité reconnue, c'est cinq avocats ferrés qui la contre-interrogent mm-hmm. heure après heure, jour après jour, comment vous voulez que la personne craque pas?
Bien, moi, je l'ai vécu au procès du viol collectif à Trois-Rivières, Victoriaville, même, en fait, il y a eu comme deux
dans un
moments,
rave,
là, oui. Puis je me rappelle, je commençais là, à suivre des causes au palais de justice, puis celle-là m'a saisi là, sur les contre-interrogatoires. Parfois, tu dis, hey, pour faire passer ton point, t'as pas besoin de celui-là. Même en termes de droit, là, t'as pas besoin d'aller
aussi loin.
C'est
pas loin d'une autre agression, honnêtement.
Ben oui.
C'est vraiment clairement. Dur, puis ça fait en sorte, puis il faut se dire la vérité, là. Il y a beaucoup de victimes qui ne dénoncent pas parce qu'elles pèsent les pour et les contre et se disent « Moi, je veux pas être une victime toute ma vie. Mm-hmm. » Hey, c'est long en plus, là. T'sais, c'est dur, mais en plus, c'est des années de ta vie.
Puis ça coûte cher.
Puis ça coûte cher. Puis ça te coûte cher de ton temps et de ton énergie et de tes émotions. Donc,
ouais.
On leur lève notre chapeau, mais je respecte aussi les femmes qui prennent une autre décision.
Ben vraiment. Ouais, puis t'es pour ceux qui disent « Ouais, voyons, il y avait juste à le dire avant. » Puis là, je vais prendre son nom en exemple là, parce qu'elle a témoigné de toute façon à visage découvert. Julie Schneider.
Ouais.
Bon, elle a raconté que c'est arrivé avec 22-23 ans à Paris avec Gilbert Rozon. Elle commence sa carrière. Pensez-vous vraiment que Julie Schneider, 23 ans, a les reins assez solides pour affronter le système qui était là en place à ce moment-là?
Ben non,
impossible.
Exactement. Puis tu sais, en plus, quand ça arrive dans un milieu où tu as quelqu'un qui a énormément de pouvoir et cette personne-là, un peu comme dans le milieu du sport, a droit de vie ou de mort sur ta carrière... T'es pas à armes égales.
Bien, en plein ça.
Donc, à un moment donné, il y a un mouvement qui se forme, il y a des voix qui commencent à s'élever, puis là, tout le monde se met à prendre la parole en même temps. Pourquoi? Pas parce que c'est un grand complot. C'est parce qu'il faut être plusieurs, il faut se donner de la force.
Ben
c'est
oui.
Ça, elles n'étaient pas à force égale.
Ben non, on les voyait tout à l'heure avant leur conférence de presse, les victimes se serrer dans leurs bras, pleurer. T'es, pour elles, c'est la fin d'un long processus de quoi? 10, 12, 15 ans
oui.
où elles ont souffert, justement. En raison de cet homme-là. Donc, c'est pas du tout l'inverse qui est arrivé, mais plutôt ceci. Très, 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 très satisfait que ce jugement-là soit tombé. Très content de voir qu'on a cru presque la totalité des présumées victimes, maintenant que je peux appeler victimes. Puis on va souhaiter qu'à la gang, on a changé nos comportements depuis l'arrivée du MeToo.
J'ose croire que oui.
Moi aussi, honnêtement, moi aussi. En tout cas, bref, moi, dans mon entourage, ben, c'est clair qu'on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Là, mais
oui.
Moi, dans mon entourage, là, pas de danger que ça arrive, là, honnêtement. Là.
Bravo.
Donc, très, 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 très heureux, satisfait. Puis c'est ce qu'on a là, présentement par texto. Si vous voulez commenter, 418-971-1021. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment radio de midi à midi 30 sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Antonine? Tu m'as surpris. Vas-y donc.
Ben, vas-y.
OK.
Non, je t'écoute.
Tu m'as surpris avec ton prochain point. Mark Carney pourrait proroger le Parlement. OK, attends une minute, là. C'est parce que là, l'année passée, on l'a arrêté, le Parlement,
oui.
le temps de monter Mark Carney sur la première marche du podium libéral et là, après ça, de dire « Regardez, le Messie est de retour! »
Il va nous sauver!
Vous pensiez que c'était Jésus-Christ? Non, c'est Mark qui va nous sauver de Donald!
Exact.
Puis là, Mark, c'est quoi? Je comprends qu'il n'aime pas ça à la Chambre des communes.
Non,
là.
Ça, on a tout compris
on
ça.
On a tout compris ça, il aime mieux faire des voyages, OK? C'est bien correct, là. Mais bon, obligé de la fermer parce que lui, il aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il la fermerait?
Bon, c'est pas parce qu'il aime pas ça. On va lui donner le bénéfice du doute. Dans le fond, il y avait un article ce matin dans le Globe and Mail qui rapportait, selon une source, Mike Carney réfléchirait à fermer le Parlement. Encore! Parce que je veux juste vous dire, à la fin de l'ère Trudeau, là,
ouais.
Premièrement, il se passait plus rien au Parlement.
C'est ça.
Tout était bloqué. Puis là, il y avait leur petite crise à l'interne. Puis ils étaient obligés de faire leur course à la chefferie à cause de ça. Puis à cause de ça, il y a eu prorogation pendant des mois parce qu'il y avait la course à la chefferie.
Fait que là, t'es prorogation, juste pour bien expliquer aux auditeurs et auditrices de Boulevard, c'est parce qu'on vote pas de projet de loi, on avance à rien.
Et non seulement on les vote pas, Jeff. On flush tout ce qu'on a fait sur les projets de loi.
C'est vrai,
donc
t'as
le travail
raison.
Qui a été fait en commission parlementaire au Sénat, on repart à zéro.
Donc là, ça veut dire que ce qu'on aurait fait comme travail, puis je vais te nommer un dossier que j'ai, qu'on a à cœur les trois, les chauffeurs à rabais. Mm. Avais-tu ça qu'on flush ça?
On flush tout. Tout repart à zéro. Après ça, tu peux redéposer. Si tu as des projets de loi, tu peux tout le redéposer, mais il faut que tu recommences. OK? Puis il faut que tu négocies. Donc là, bon, maintenant, ça, c'est le quoi? Le pourquoi. Pourquoi Mark Carney voudrait-il proroger la Chambre? Tu sais qu'il y a trois élections partielles dans les comtés fédéraux. Que Mark Carney a de bonnes chances de remporter.
Ben, il a juste besoin de deux maintenant sur trois pour remporter la majorité. Il va les avoir en Ontario,
il
c'est
ça. Il va les
sûr.
Avoir en Ontario. Il reste Terrebonne. Mais Terrebonne, c'est important quand même. Parce que même si tu as ta majorité, tu sais, c'est dur d'avoir une majorité, excuse-moi l'expression, ça affaisse de même parce que là, il faut vraiment que tout le monde soit présent au vote.
Oui, ouais, parce que là, s'il y en a un qui tousse de travers un matin, t'es dans le trouble.
T'es dans le trouble. Donc, puis faut des accidents, un parlementaire, ça arrive. Hein, des votes que tu pensais qu'ils allaient passer puis qu'ils passent pas. Puis des, mm-hmm. bon. Donc, il aimerait mieux gagner Terrebonne.
C'est clair.
Après ça, il va peut-être avoir M. Boulris. Nous verrons qu'est-ce qui s'en viendra par la suite. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si M. Carney a sa majorité? La Chambre des communes et les Sénats, le Sénat, tout était organisé comme un gouvernement minoritaire. Donc, en début de législature, on négocie puis on distribue les budgets parlementaires, les temps de parole, le nombre de sièges qui va, sur quelle commission parlementaire qui préside, etc. Donc, les oppositions ont beaucoup de place en ce moment.
C'est clair.
Et ce qui fait que si toi, tu as un projet de loi, tu es Mark Carney, tu as un projet de loi, puis que les oppositions décident de niaiser, là... Ton projet de loi, il passera pas.
Non, non, ils vont te niaiser.
Donc, lui, il aimerait ça reconfigurer les comités.
Pour avoir plus de pouvoir.
Bien, pour pouvoir gouverner en gouvernement majoritaire. Mm-hmm. S'il a sa majorité, il veut gouverner comme s'il y a une majorité.
Mais tu sais, ce qui est normal.
On comprend. En même temps, il est allé grappiller des députés à coups d'affection aussi. T'sais, on peut avoir un débat sur l'éthique et la véritable majorité a-t-elle été donnée par le peuple? Écoute.
Moi, je reviens avec ce que Gabriel Hardy nous a dit. Il y a des gens qui m'ont approché, trois députés libéraux qui m'ont approché dans l'ascenseur. Fait qu'il y en a eu des petites discussions.
Ah oui, je pense.
Hey, mon Chris, qu'est-ce que t'en penserais? Qu'est-ce qu'il y a besoin dans ton comté? La pêche est difficile. Viens avec nous autres, mon
Monsieur
régler,
Gabriel Hardy qui est au sein des conservateurs.
Oui, tu fais bien de le dire.
À partir de là, M. Carney n'est pas obligé de proroger pour réorganiser ces choses. En fait, il y a une autre option qui est de négocier avec les oppositions. Mais là, est-ce que les oppositions vont collaborer?
Mm-hmm.
On pourrait croire que ça ne collaborera pas. En même temps, les oppositions, ils veulent pas vraiment aller en élection.
Non.
Puis, tu sais, stratégiquement, là, moi, mettons, je suis les libéraux, ben, je vais commencer par dire... Moi, ma stratégie, ce serait de dire, ben, je vais négocier, j'invite les oppositions à collaborer, on a notre majorité, donc on va commencer des négociations. Je lâcherai ça dans l'espace public. Après ça, si les oppositions ne collaborent pas, je vais dire, écoutez, je n'ai pas d'autre choix que de fermer le Parlement. Ils ne collaborent pas, ils font de l'obstruction. Et là, au moins, tu fais porter l'odieux sur les oppositions. Je ne pense pas qu'il a fermé la Chambre tout de suite, nécessairement. Là, il semble que ce soit un ballon d'essai, en fait.
Ouais.
Ça a été coulé dans le journal. Là. Ils veulent voir un peu les réactions. Si ça réagit mal, ils vont essayer de procéder autrement. Si ça passe, parce qu'il faut le dire, le Mark Carney est très populaire en ce moment.
Ben
donc,
oui.
Je pense qu'il s'en permet un peu plus.
Ben, t'es j'ai le Messie.
Ben, on entend ça beaucoup dans d'autres mots, mais ça ressemble à ça en ce moment, puis les sondages le confirment. Mais quand même, même si M. Carney est populaire,
je trouve que le travail de l'opposition et des médias est plus pertinent que jamais. Mm-hmm. Parce que, t'en as nommé tantôt, les chauffeurs à rabais, Curam, tout ce qui se passe avec l'immigration. Il y a encore un rapport de la VG la semaine passée qui nous disait qu'on ne vérifiait même pas les dossiers des étudiants internationaux qui avaient des red flags dessus. On l'accepte tout le monde.
De toute façon, on n'est même pas capable d'être malléable et flexible avec le gouvernement du Québec. On en a parlé hier avec les permis de travail. Hey, Antonine, tiens, tu as ton permis de travail temporaire. Ton chum, ah non, il retourne en France.
On en parle dans un an.
C'est ça.
Qu'il retourne en France, on verra quand, si ça marchait comme ça. Donc, il y a tellement de dossiers en cours qui demandent imputabilité. Qui demandent surveillance. Puis ça, c'est le travail des oppositions. Transparence. Et d'ailleurs, tu sais...
On s'entend dans Curam, là, on n'est pas transparent pantoute. Ouais. Stephen McKinnon nous rit en pleine face quand Carney parle.
Il dit que tout va bien.
Ben oui, c'est ça.
Tout va bien. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne reçoivent pas leur pension, mais on les imagine, nous autres.
Oui, puis Joël Lightbound, là, le gars qui était censé être avec nous autres hier, là, lui, il a dit que la maison est en ordre avec Phoenix.
Tout est en ordre.
116 000 personnes
Donc,
qui attendent encore.
On a besoin d'avoir un Parlement qui fonctionne.
Clairement.
T'sais, moi, je m'excuse, mais je trouvais ça scandaleux si on ferme encore le Parlement.
Ça fera pas de sens.
Puis, tu sais, un peu de productivité. On nous a promis maire et monde là, en élection l'année passée. Là. M. Cogny a promis de tout régler avec Trump. Ça, c'est, on s'entend
c'est pas fait.
Puis, c'est pas nécessairement aux communes que ça va se faire. Mais on nous a promis aussi de transformer en profondeur l'économie. Ben oui, il y a les voyages, là, mais tu sais, je veux dire, notre appareil public fédéral est une catastrophe. Mm-hmm. Ils ont de la job, là.
Ben oui.
Puis moi, je compte sur les oppositions et la presse parlementaire à Ottawa pour les surveiller. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est de la faute à personne. Il y a des fiascos, il y a des scandales, il y a des inefficacités. De la faute à personne.
Pour la personne. Au fédéral, c'est trop loin. Donc, non, puis, tu sais, juste pour vous mentionner, il y a un excellent texte également dans le Journal de Québec aujourd'hui sur les régions du Québec qui sont mises à mal par les tarifs. On parle du Saguenay, de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est des régions qui étaient censées être sauvées par Marc, là.
Ouais, bon.
Ils sont pas sauvés.
Le sauveur est toujours attendu.
Dans le trouble. Hey, on a parlé des sondages hier. On a vu les premiers résultats de façon préliminaire. Ben, je veux dire, les grands résultats. Donc, on le rappelle, 33 % égalité PQ-PLQ, 41 % chez les francophones pour le PQ, 23 % pour le PLQ. La CAQ avec leur chicane fraîchette Drainville, c'est un grand coup de pied en arrière. On est parti. Ils sont à égalité QS avec 9 % 15 % pour le Parti conservateur du Québec. Là, hier, j'ai entendu les deux. J'ai entendu des gens dire, par exemple, Mario Dumont dire à 23 % francophones, le PLQ, ils vont toujours chercher un petit 3-4 de plus, la fameuse prémalurne PLQ. Oui. Je vois le PLQ minoritaire. J'ai entendu plein d'autres analystes dire PQ n'a pas trop à s'en faire, 41 % francophones qui continuent à frapper là-dessus, puis ils vont avoir leur gouvernement majoritaire. T'en penses quoi, toi?
Bien, les deux peuvent être vrais en même temps. C'est-à-dire que les plaques continuent de bouger. Là. C'est vraiment pas fixé dans le temps. Mais c'est sûr qu'à 23 % chez les francophones, les libéraux sont aux portes de quelque chose d'assez intéressant, mm-hmm. la zone payante.
Ben oui.
Okay? Donc, à partir de 25 % et on le sait, là, ils ont quand même un potentiel de croissance en région, dépendamment de ce qu'ils vont avoir comme positionnement. Puis là, c'est ça le drapeau qui se lève pour le PQ, c'est que pour l'instant, il y a un effet de nouveauté avec Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral. La nouveauté en politique, c'est quelque chose qui...
Là, je fais Charles Milliard.
Il sourit beaucoup pour les auditeurs, là, juste vous décrire.
Regardez sur Twitch.
Mais ouais, je suis pas contre les sourires. C'est juste, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on fait pour la
économie.
Santé.
Gestion saine des finances publiques.
Qu'est-ce qu'on fait pour la langue française, M. Milliard?
Économie. Gestion saine des finances publiques.
C'est quoi les seuils d'immigration que vous allez fixer, M. Milliard?
Économie. Gestion saine des finances publiques.
Est-ce que vous êtes pour ou contre d'aller un petit peu plus loin sur la laïcité puis interdire les signes religieux dans les écoles?
Ah, ça va être au tribunal à décider.
Ouais, c'est ça. Exact. C'est pas économie, ce coup-là.
Non, ça, il l'a déjà fait, cette réponse.
Donc, il y a quand même un manque de clarté présentement. Donc, ça va continuer à bouger. Oui, il y a quelques éléments qui me frappent parce que ça va affecter la stratégie des partis jusqu'à l'élection. Il y a des messages importants dans ce sondage-là.
Vas-y.
Notamment, la question des hommes et des femmes. Paul Saint-Pierre Plamondon ne pogne pas avec les mesdames.
Il est trop agressif, hein? Les mesdames
est-ce
aiment
que
pas
c'est,
ça.
Est-ce que c'est ça l'explication, peut-être?
Bien, les mesdames n'aiment pas Pierre Poilievre.
Ils n'aiment pas Pierre Poilievre non plus, les
tu sais, on s'entend. Pierre Poilievre et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est des gars qui se promènent dans un bar. La madame, elle regarde. T'sais, c'est des beaux bonhommes.
Oui, mais c'est pas ça.
OK, toi, tu fais une corrélation avec le fait que certains disaient que, bon, Justin Trudeau était très good-looking, fait que
non,
ça
attire
un peu.
C'était Fan de la chance aussi.
Ou Bruno Marchand.
Disait, exact.
Non, mais ce que je veux dire, et puis honnêtement, j'ai ce préjugé-là, là. pour de vrai, là, tu sais, puis je le dis, puis je m'haïs quand je le dis, mais c'est vrai, tu sais. Quelqu'un que je vais trouver joli va venir s'exprimer devant
mais
moi.
Mais c'est pas juste toi, c'est scientifiquement prouvé.
Oui, oui. J'ai plus de chances d'être attentif à ce qu'elle dit scientifiquement qu'une autre dame que je trouve moins jolie, puis je m'haïs, parce que l'autre dame que je trouve moins jolie, sûrement, fait peut-être des propos qui ont plus de sens avec mes valeurs.
En politique, c'est un peu différent. Pour les femmes, par contre, je vous dirais que les belles femmes ont tendance à être plus sous-estimées, moins prises au sérieux. Cela dit, quelqu'un qui est joli, très
Colin, moi, je les prends au sérieux à mort. Fait que je suis complètement différent.
Mais c'est bizarre, toi, déjà.
C'est
vrai que les gens ont plus d'écoute et d'ouverture et sont plus attirés, même pas, on parle platoniquement, là, par des personnes qui ont une belle apparence. Donc, PSPP et Pierre Poilievre ne sont pas des hommes laids. C'est pas ça
exactement,
du tout l'enjeu.
Politiquement parlant, ils sont aux opposés. Comment est-ce qu'on explique qu'ils vont pas chercher la gente féminine?
Ils sont aux opposés sur la ligne gauche-droite ou nationaliste, certes, mais ils ont une approche qui est celle de remettre en question le statu quo.
OK.
Donc, puis là, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Votre opinion m'intéresse, puis vaut la mienne. Mais les femmes ont tendance à avoir un petit peu moins d'appétit pour des changements drastiques.
Donc, j'aime ce que tu amènes comme point.
Un petit peu plus de frilosité au risque.
Oui.
Par exemple, bon,
Pierre Poilievre... C'est comme ça en finance aussi.
Oui, absolument, absolument. Oui, absolument. Et, PSPP et le PQ proposent un changement qui est très drastique, c'est-à-dire sortir du Canada. Et puis même, j'ai envie de dire, historiquement, j'étais dans une soirée hier, puis la question a été posée aux panélistes, notamment Evelyne Baudin, là, qui est une ancienne, l'ancienne mairesse de Sherbrooke et qui a participé au livre qui fait dire oui. Puis la question a été posée, pourquoi les femmes... appuient pas davantage la souveraineté du Québec. Puis elle a amené un point intéressant que je vous partage. Elle a dit les crises, les gros changements, les mouvements politiques, les révolutions, ont toujours eu des conséquences négatives sur les femmes historiquement. C'est toujours les premières victimes quand il y a un petit peu plus de chaos dans une société.
Ouais, je comprends.
Donc peut-être qu'il y a une partie de la réponse qui est là. Cela dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout s'il veut faire un pays, il ne peut pas faire un pays. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu ailles un peu l'aval de tous les groupes de la société. Les femmes, quand même, 50% de la société. Ce n'est pas une minorité nécessairement. Donc, comment il va faire dans les prochains mois? Moi, je vais observer. Est-ce qu'il y a un changement d'approche? Est-ce qu'on va proposer davantage de choses qui peuvent parler plus à un électorat féminin? Donc, moi, je m'attends à avoir des propositions par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport aux garderies. Ça fait cliché ce que je dis, mais check les bains.
En effet.
Check les bains, on va voir.
Hey, on va checker ça, certain.
Puis, du côté de QS, c'est complètement l'inverse. Donc, QS ne pogne pas avec les messieurs.
Ouais, pogne plus avec les femmes.
Pogne plus avec les femmes.
Ben, je pense que je vois une corrélation, là. Puis honnêtement, avec le discours que j'entends en société, tu sais, le discours identité de genre, tu sais, ce
finance,
discours-là.
Finance, moi, je vois.
Ouais, finance, où QS est très dépensier, très gouvernement, qui intervient
plus
dans
les filets sociaux.
Exactement.
Où tout le monde contribue.
Parle-moi à la gente masculine.
Puis, ouais, exact. Puis remettre en question l'hégémonie de l'homme blanc. Ne plaît pas à l'homme blanc, peut-être.
Ben non, exactement. T'as entièrement raison, maudit QS.
Maudit QS. Donc,
ben
non, je pense que vos hypothèses sont les bonnes.
J'aime
mais
ça.
Tout ça pour dire que les partis politiques vont voir ces résultats-là. Bon, des fois, tu peux te dire, ben nous, on va se concentrer sur ce qu'on a déjà, on va consolider nos acquis. Mais c'est sûr que tu veux aller chercher de la croissance. Ben là, il va falloir que tu ailles parler un petit peu plus à d'autres groupes. Tu peux pas juste parler tout le temps à ta base.
Ouais, puis QS n'aura pas le choix là, d'agrandir ça avec un volet plus féminin. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Du côté des âges, chez les jeunes, c'est les libéraux qui sont premiers en ce moment. Hein? Puis on avait vu il y a quelques temps, par exemple au fédéral, les jeunes étaient très attirés par les partis de droite, par le Parti conservateur, le PCQ dans la région de Québec, notamment les jeunes étaient très... Bien, les libéraux sont en train de faire un retour
chez
les jeunes.
Ben oui, je sais, j'ai vu ça. Ça m'a étonné.
Comment vous l'expliquez? Ce serait quoi vos hypothèses? Moi, j'en ai une, mais...
Que les jeunes se tournent plus vers les libéraux? Je pense que on parle beaucoup d'argent, puis le coût de la vie prend énormément de place chez les jeunes, accès à la propriété qui est pas là. Donc, je pense que ça, le discours, justement, là, t'sais, la blague que je faisais, économie, saine gestion des finances publiques, mais ça accroche les jeunes
ça
à l'heure actuelle.
Ça peut parler aux jeunes, oui.
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été non plus aux premières loges de tous les scandales. Fait que pour eux, ça pèse peut-être pas autant que certaines générations. Puis ça semble être un petit peu plus... sans être au centre au niveau de l'échiquier politique, un peu plus au centre sur si tu fais l'addition de tout ce qu'il présente.
Bien,
sans
moins
dans
centre,
les extrêmes.
Le Parti libéral. Ouais.
Bien, surtout en 2026.
Puis avec un chef qui est un peu plus jeune, qui peut projeter une image qui est plus jeune. Je pense aussi que la montée de la popularité, de la souveraineté chez une partie de la jeunesse fait en sorte peut-être de faire remonter certains autres jeunes qui disent « Hey, wow, là, on nous dit que les jeunes sont pour la souveraineté. Moi,
wow,
non. » Manette. Fait que, est-ce qu'il pourrait avoir une mobilisation autour des libéraux des
ça.
Jeunes?
C'est-tu quoi? Je trouve qu'on a trois...
Partie bonne, d'explication.
Ouais, trois bonnes explications, trois bonnes solutions.
Puis en terminant, chez la CAQ, eux, c'est vraiment le contraire. Les jeunes ne veulent rien savoir de la CAQ. Bon, tu vas me dire, selon les résultats, personne ne veut rien savoir de la CAQ, mais particulièrement, c'est pas présent. Et du côté des 55 ans et plus, QS, écoute, c'est zéro.
C'est zéro, hein? On ne veut rien savoir.
Zéro.
Non, c'est ça. On est
donc, on voit les défis, de tous les partis à travers ces résultats-là. Quand on va au-delà juste des intentions de vote national, d'après moi, ça va alimenter les stratégies des partis. On va observer ça ensemble. On verra si nos hypothèses se confirment.
Je te fais confiance pour qu'on suive ça. Dès que PSPP fait une annonce et CPE, je vais dire «
Ha-ha! »
Tu l'avais dit, Antonine Iaccarini. Pascal CV, Breaking News.
Oui, je dois vous couper parce que celle-là, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Je pense que personne ne l'aura vu venir. L'attaque au sabre dans le Vieux-Québec, alors en 2020, ça nous a tous marqués. Bien, Carl Giroir va avoir droit à un nouveau procès.
Hey.
On vient d'invalider le verdict de culpabilité au niveau de la cour d'appel. On ordonne un autre procès, un deuxième, concluant que le jury aurait dû être instruit sur le silence de l'accusé en interrogatoire. Donc, cour d'appel du Québec qui ordonne ce nouveau procès pour l'attaque au sabre dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween. Et il y aurait... plus de détails à venir. Là, ça vient tout juste de sortir.
On parlait des familles tantôt dans le cas de Gilbert Rozon et des victimes vont avoir à se retaper un deuxième procès.
Oui, c'est ça qui est douloureux.
Ah oui,
parce que moi, ça ne m'inquiète pas trop que ça va finir un peu de la même manière.
Ah,
mais
il y a des images. Il y a pas mal de preuves tangibles pour ce qui est de Carl Giroir, mais présentement, il faut dire qu'il est accusé pour justement l'attaque au sable dans le Vieux-Québec à l'Halloween. Merci beaucoup, Pascal Cévé, pour ce Breaking News. Après la pause, on fait deux choses. On parle premièrement avec une avocate spécialisée en recours civil lors de dossiers qui concernent des agressions sexuelles, c'est-à-dire Alexandra Fadel. On va revenir sur le cas de Mohamed Bekadi, cet homme super bien, qui a un bon langage envers les policières à Montréal. Vous comprendrez mon sarcasme. Et Alicia Despins également va être avec nous. On parlait des vacances du maire Marchand. Sont-ils bien choisis ces vacances à Paris pendant que c'est le bordel des travaux du tramway? On fait tout ça dans un instant à Boulevard 101, l'émission d'Enjase.